Alain Decaux raconte, tome 4 d'Alain Decaux. Troisième partie. Le Grand Paris de Louis Blériot. Dimanche 25 juillet 1909, 4 heures du matin. Là, à Sangatte, devant la mer, un champ immense et plat. À l'horizon, un disque rouge qui lentement s'élève. 4h40, c'est le lever du soleil. Dans ce champ, le jour naissant éclaire un incroyable assemblage de bois, de fils de fer, de papier verni. Une sorte d'oiseau malhabile, comme esquissé, inachevé. Deux grandes ailes blanches, deux roues de bicyclette, une hélice. Et hissé sur cette machine, dont il semblerait qu'un coup de vent suffirait à la renverser, un homme. Un homme qui s'appelle Louis Blériot. Ce jour-là, 25 juillet 1909, Louis Blériot nourrit une incroyable prétention, voler au-dessus de la mer, des côtes de France à celles de l'Angleterre, franchir la Manche. Le jour où, pour la première fois, des hommes ont marché sur la Lune, des reporters de la télévision américaine sont allés à Dayton, USA, pour interroger un vieux monsieur. Comme quelques centaines de millions d'êtres humains, ce téléspectateur octogénaire avait vu Neil Armstrong prendre pied sur notre satellite. Or, au début du siècle, il avait également assisté au premier vol des frères Wright, constructeurs après Clement Ader, de la première machine qui ait vraiment volé. Ainsi, le vieil Américain avait à la fois vu, pour la première fois, les frères Wright décoller de notre Terre et Neil Armstrong marcher sur la Lune. Insistant, les reporters lui demandèrent ce qu'il ressentait. Simplement, le vieux monsieur répondit « Tout ça dans une vie d'homme. » Il n'aurait pu mieux dire. L'épopée de la conquête de l'air s'est entièrement déroulée en moins de 70 ans. En moins d'un siècle, les premiers aviateurs ont tenté leur premier saut de puce et l'on a lancé des fusées jusqu'à la planète Mars, jusqu'à Jupiter et Vénus. Entre ces premiers essais, justement, qui représentent la préhistoire de l'aviation, et la véritable conquête de l'air, une date nous apparaît comme une étape essentielle, le 25 juillet 1909, jour où Louis Blériot a décidé que l'avion pouvait franchir une mer. Un pari qui, aujourd'hui, peut nous paraître dérisoire. Le Pas-de-Calais n'est large que de 40 kilomètres à peine. Pourtant, la conquête de ce bras de mer a paru en son temps plus fabuleuse encore que, pour notre génération, la victoire sur la Lune. Je n'ai pas l'âge du vieux monsieur de Dayton, mais j'ai connu les artisans de cette épopée. J'ai recueilli les confidences de Ferdinand Colin, de Robert Grandseigne, de Louis Parago, dit Louis, l'apprenti. Je les entends encore me parler de M. Blériot, leur patron. C'est à travers eux, par leurs yeux, que j'ai fini par le voir, moi aussi, M. Blériot, au milieu de ces fanatiques qui, au cours de 1905, s'acharnaient à faire voler des plus lourds que l'air. En général, ils étaient très jeunes. Leurs admirateurs se situaient surtout dans la génération des 15 à 25 ans. Parmi ces jeunots, Louis Blériot tranchait. Avec ses 33 ans, en 1905, il faisait figure d'ancêtre. D'ailleurs, il paraissait plus que son âge, avec des traits accusés, un curieux nez en bec d'aigle, et surtout cette grosse moustache noire qui lui barrait le visage. Cet homme du Nord, il venait de Cambrai, n'était pas du genre expansif. Plutôt bourru, parlant peu. Avec, comme on dit, les pieds sur la terre. Une carrière toute classique, sans histoire. Un exemple de jeunesse bourgeoise, l'école centrale, le diplôme d'ingénieur, le mariage avec la fille d'un colonel, Alice Veden. Une affaire qu'il crée, phare pour véhicules, fiacre, automobile, vélo, etc. Les phares Blériot. Elle se développe, cette affaire, et finit par rapporter 60 000 francs par an. Ce n'était pas rien à une époque où un employé du ministère gagnait 150 francs par mois. Dès lors, les Blériot habitent un hôtel particulier, boulevard Maillot. Ils ont 6 enfants, circulent dans 2 voitures, des Panhard Levasseur, conduite par le chauffeur Henri, dont les joues vermeilles font l'admiration du quartier. Bref, une réussite. Qu'est-ce que Louis Blériot pourrait demander de plus à la vie? Précisément, il lui demande davantage. Car ce bourgeois, ce fabricant de lanternes, vit dans un rêve. Un rêve qu'il cache soigneusement. Pour la raison, en cette belle époque de la bourgeoisie absolue, que les rêveurs sont mal vus. La vérité est que M. Blériot, cet homme si convenable, rêve de voler. À l'école centrale, il y rêvait déjà. Il pensait à une machine volante qu'il construirait un jour. Mais il n'en parlait pas. Plus tard, il a dit « Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou ». La machine volante du jeune Blériot devait être, dans son esprit, un plus lourd que l'air. Depuis le XVIIIe siècle, des hommes s'étaient élevés dans le ciel, mais à bord de ballons. Puis on avait appris à conduire ces édifices de toile et de gaz, les dirigeables étaient nés. Mais chacun savait que l'avenir n'était pas là. Le dirigeable offrait une trop grande surface, donc une trop grande résistance au vent. C'est Nadar, l'homme des ballons, qui avait dit le premier en 1863 « Pour lutter contre l'air, il faut être spécifiquement plus lourd que l'air ». L'histoire des années 1890 à 1910 est celle, justement, de la recherche de ce plus lourd qui vaincrait l'air. Clément Ader avait le premier, en 1890, conçu une sorte de chauve-souris géante tractée par une hélice et qui, lors de deux essais, s'était légèrement élevée au-dessus du sol. Mais, au nom de la défense nationale, Ader avait exigé le secret. Celui-ci avait été si bien gardé que, finalement, les pouvoirs publics s'étaient totalement désintéressés des travaux d'Ader. Écœuré, il avait brûlé ses plans et ses prototypes. Et puis, en Amérique, les frères Wright avaient imaginé un biplan que l'on projetait dans les airs à l'aide d'une sorte de catapulte. Le curieux de l'affaire, c'est que les Wright avaient travaillé de leur côté sans publicité. En France, on ne savait rien de leurs travaux. Ce qu'il faut bien souligner, c'est, à cette époque, l'isolement de ces chercheurs parallèles. Tous, ils travaillent dans la même perspective. La plupart du temps, ils s'ignorent. Un jour, M. Blériot n'y tient plus. À Henri, son chauffeur, il commande à Levallois, rue de la Révolte. Rue de la Révolte se trouve un garage tenu par l'ancien champion cycliste Contenay, qui a battu les records de 1898 à 1903. Contenay est un client des phares Blériot. Ce que Blériot est venu solliciter de lui, c'est le prêt d'un hangar. Contenay ne fait pas de manière pour accepter. Projetant en avant un torse nerveux, il aboie seulement « C'est pour quoi faire ? Une machine volante. » Des mois de travail, une perpétuelle navette entre le boulevard Maillot et la rue de la Révolte. Le chauffeur, Henri, promène ses joues rebondies dans les cafés de Levallois en soupirant « Monsieur s'amuse à fabriquer un aéronaute. » De temps en temps, Contenay vient jeter un coup d'œil sur le travail de son protégé. Un coup d'œil effrayant, car chaque mouvement de l'excellent Contenay sue la férocité. Hirsute, les cheveux raides, la bouche tordue, il hurle. Alors, ça marche ? Le résultat, un orthoptère, une machine à ailes battantes dont le moteur est actionné à l'acide carbonique. On va pousser l'ornithoptère dans un terrain vague. Blériot met le moteur en marche. Cela grince, cela s'ébroue, puis les ailes battantes se replient vers le sol. Définitivement. L'ornithoptère réintègre le hangar de Contenay. C'est là que Gabriel Voisin vient le voir. Le capitaine Ferber lui a dit, quelques jours plus tôt, « Venez avec moi faire la connaissance d'un marchand de lanternes qui a construit un appareil à ailes battantes. » Ferber, l'un de ses chercheurs, comme il y en a à l'heure 6 ou 7, acharné à découvrir le secret du plus lourd que l'air. Il se tuera lui aussi en tentant de franchir la Manche. Gabriel Voisin, lui, pour 190 francs par mois, construit et essaye des planeurs pour le compte du mécène Archdeacon, président du syndicat d'aviation. Nous sommes en avril 1905. Blériot, contrit, montre à Ferber et Voisin ce qui reste de sa machine. On parle. Voisin évoque le planeur qu'il construit à Billancourt. De cette visite, une association va naître. On cloue sur la façade d'un atelier de Billancourt, rue de la Ferme, cette enseigne Blériot Voisin. Le premier enfant de ce mariage d'inclination est un hydroaéroplane. Voisin l'essaye lui-même sur la Seine. superbement l'appareil s'engloutit dans l'eau. Ce jour-là, la carrière d'aviateur de voisin a bien failli s'arrêter définitivement. Enseveli sous le filet inextricable des cordes à piano brisées, un crochet douloureusement enfoncé dans le poignet droit, il ne parvient pas à regagner la surface. Plus il se débat, plus il s'enfonce. Quand on le tire de là, il suffoque. Il prend pied, grelottant, sur la berge où, plus sombre que jamais, l'attend Blériot. Entre ses dents serrées, il jette simplement à voisin « Vous aviez raison, les ailes sont trop creuses. » Puis, à grands pas, il s'éloigne. Le lendemain, quand voisin, le bras bandé, retrouve Blériot, on reparle de la courbure des ailes. D'une voix changée, Blériot dit tout à coup « Vous m'avez fait hier une peur que je n'oublierai jamais. Laissez-moi vous offrir un cadeau. » Voisin interloqué garde le silence. « Choisissez. »« Ben, un vélo. » Il habite passage d'Anzic, loin de Billancourt. L'omnibus est cher, peu rapide. On va recommencer. Cette fois, il s'agit d'un appareil à cellules elliptiques, monté sur des flotteurs et muni de deux moteurs Antoinette de 24 chevaux. On le lance sur les eaux vertes et herbeuses du lac d'Anguin. Mais, sous les regards goguenards d'une foule désabusée, il se refuse obstinément à quitter l'élément liquide. Blériot propose de substituer des roues aux flotteurs. Voisin accepte. On va essayer, sur la pelouse de Bagatelle, la machine modifiée. Bagatelle, c'est le fief de Santos-Dumont. Sur une sorte de chauve-souris qu'il dirige avec un volant d'automobile, le Brésilien a tenté, en vain, de s'élever à plusieurs reprises. Le 3 septembre 1906, enfin, il a quitté le sol et parcouru 7 mètres. Le 23 octobre, il s'est élevé au-dessus des arbres et a parcouru 25 mètres, décrochant ainsi la coupe Archdeacon, tant convoitée. Le 12 novembre, toujours sur le terrain de Bagatelle, Santos parcourt 220 mètres en 21 secondes, remportant cette fois le Grand Prix de l'Aéroclub de France. Le même 12 novembre, Blériot et voisin ont aussi conduit leur propre appareil à Bagatelle. Il est monté par Perret, contremaître de l'atelier, promu sans hésiter au rang de pilote. Mais l'appareil bute dans un caniveau et se brise. Au retour, dans la part, Blériot développe ses nouvelles idées. Voisin a aussi les siennes. Malheureusement, ce ne sont pas les mêmes. La collaboration avec Blériot, c'est une gigantesque engueulade, dira voisin. Il fallait discuter à perte de vue pour la moindre chose. Cette fois, voisin ne veut plus discuter. Fixement, Blériot regarde les épaules du chauffeur. Sans tourner la tête, il lance « Séparons-nous. J'allais vous le proposer. » Voisin va trouver des capitaux, racheter sa part à Blériot. Quant à Blériot, il s'installe à Neuilly. Les fervents de la petite reine, qui se rendent le samedi et le dimanche au vélodrome Buffalo, à la porte de Ternes, vont apprendre à connaître ce hangar peu reluisant qui, boulevard Victor Hugo, porte l'inscription insolite L. Blériot, Inge, ECP, Recherches aéronautiques. Blériot construira seul son nouvel avion. En même temps, il a pris la décision la plus importante de sa vie, il expérimentera lui-même ses appareils. À l'aviation, il a déjà sacrifié son temps, sa fortune. Ce qu'il met en jeu maintenant, c'est sa vie. Quand il est prêt, cet avion, Blériot le conduit à Bagatelle. Il s'agit d'un monoplan, car Blériot croit au monoplan. Sur la pelouse, un éclat de rire. On dirait un canard. Eh bien, je l'appellerai le canard. De fait, les ailes ressemblent à celles du ptérodactyle, telles qu'elles figurent sur la couverture du Monde perdu de Conan Doyle. Mince nervure recouverte d'une peau parcheminée. En fait, du simple papier verni. Le papier est très léger, explique Blériot. Il permet à la voilure d'épouser exactement les formes compliquées de l'armature. Entre ses dents, il ajoute, surtout on le répare très facilement. Premier essai du canard, les roues s'affaissent. Deuxième essai, les fourches des roues fléchissent. Troisième essai, l'hélice se fausse. Quatrième essai, enfin il décolle. On est le 5 avril 1907. Quelques jours plus tôt, l'aéroplane de voisin, piloté par son frère Charles, a volé lui aussi. Les 8 et 15 avril, nouveau saut du canard. Le 19, l'appareil atterrit brutalement, capote. Blériot s'en tire indemne, mais le fuselage est brisé. Il faut envoyer le canard au cimetière. Son successeur, c'est la libellule, et la libellule volera. Le 11 juillet 1907, 25 mètres. Le 25, 50 mètres. Le 6 août, 150 mètres à 12 mètres de haut. Faut-il prendre Blériot au sérieux? Soulignons en passant que la libellule ne comporte aucun dispositif stabilisateur. L'équilibre est donné uniquement par le corps du pilote. Il se penche en arrière au décollage, en avant pour atterrir. Chaque jour, Henri véhicule Alice Blériot à Bagatelle. Avec un peu d'angoisse, elle voit le monstre cahoter sur l'herbe, décoller, s'élever, retomber. Le 17 septembre, la libellule monte jusqu'à 25 mètres. Jamais Blériot ne s'est élevé si haut. Prenons garde que 25 mètres représentent la hauteur d'une maison de 6 étages. Alice crispe les mains sur le manche de son ombrelle. Il y a là plusieurs centaines de personnes, nez au vent, bouche bée. Soudain, un cri. Le moteur de la libellule s'est arrêté. L'appareil glisse, amorce une descente, l'une de ces descentes que l'on baptisera plus tard « Encheminée ». Le cœur d'Alice bat à grands coups. Terrifiée, elle voit son mari se soulever de son siège, ramper vers la queue de l'appareil. Le glissement se ralentit. La libellule revient à plat, perd sa vitesse et, avec une relative lenteur, s'écrase au sol. C'est une ruée vers la machine en morceaux. Alice court aussi vite que le lui permet sa jupe entravée. Des débris de ce qui fut la libellule, Blériot, couvert de poussière, est déjà sorti en souriant. Il recommencera. Il recommence. De l'atelier, les modèles sortent, se succèdent. Le BL6, le 7, le 7 bis, le 8, le 8 bis. Tous ils volent, mais tous ils tombent. On finit par appeler Blériot « l'homme qui tombe toujours ». Un journal imprime méchamment « encore une chute de Blériot ». La dernière, espérons-le. Il faut être juste, chaque appareil marque un progrès sur le précédent. Malgré tout, Blériot reste encore loin derrière ses concurrents. Farman vole sur les biplans construits par voisins. Fini les bons, les sauts de puce. L'été de 1908, on accomplit de vrais vols. Le 30 octobre, Farman vole 27 kilomètres du camp de Chalon au camp de cavalerie de Reims. La France entière acclame le premier vol de ville à ville. On n'en est plus au stade de l'exhibition. Les visionnaires sont rejoints. On découvre que l'avion est un moyen de transport. Blériot s'affronte à son tour aux longues distances. Il vole 7 kilomètres. Il aurait tant voulu être le premier pour le ville à ville. Il enrage que ce Farman l'ait doublé. Mais le lendemain, 31 octobre, il va prendre sa revanche. Il part de Toury, en Beauce, à bord du 8 Terre, se dirige vers Artenay, atterrit pour réparer une panne de magnéto, repart et revient à Toury. Il a accompli 28 kilomètres à 80 à l'heure. Il a fait mieux que Farman. Il a voyagé comme lui de ville à ville, mais avec retour au point de départ. Du coup, la presse embouche les trompettes de l'enthousiasme. Ce voyage restera dans l'histoire de l'aviation. Et un journal se demande déjà où pourront atterrir, dans la traversée de la capitale, les aéroplanes qui bientôt sillonneront Paris. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces appareils sont à la lettre improvisés. À l'atelier de Neuilly, Blériot pose les problèmes. Sa petite équipe d'ouvriers les résout à l'établi. Longtemps, Blériot n'a fait travailler que Perret. Maintenant, Perret est contremaître. Quand Blériot arrive à Neuilly, il traverse la cour d'un pas pressé. L'atelier s'ouvre au fond. Un hangar sommaire, aux murs en planches, au toit recouvert de toiles goudronnées. « Bonjour, patron !» C'est la voix aiguë de Lepelletier, le menuisier sourd, qui accueille Blériot. Il travaille à droite, près de l'entrée. Un cœur d'or et une adresse extraordinaire. L'arrivée du patron n'interrompt pas le travail. Chacun est à sa place, précis, affairé. Au milieu de l'atelier, Robert Grandseigne, petit, râblé, grosse moustache à la gauloise, termine l'entoilage du fuselage. Ancien ouvrier d'art, commis Faubourg Saint-Antoine, il a quitté l'ébénisterie pour la mécanique. Mais le moteur, c'est la spécialité de Colin. Quelques mois auparavant, Colin a, sans s'en douter, fait une invention considérable, ce qu'on appellera la cloche Blériot, un autre manche à balai. La première fois où Blériot a manœuvré le manche, il a répété pendant plus d'une heure, sans se lasser, la manœuvre. Toute sa vie, Colin se souviendra de cette minute où Blériot, visiblement fou de joie, a joué avec un mécanisme dont l'invention marquait une étape de l'aviation. Aux machines-outils, Bertrand, l'ancêtre, il a moins de 35 ans, est d'une extraordinaire habileté. Allant de l'un à l'autre, l'apprenti, dégourdi, éveillé, cherche à tout comprendre. C'est petit Louis. Dans l'atelier, Julien Mamet entoile les ailes. Mamet est attaché au patron pour tous les essais extérieurs. Un beau garçon dont la moustache frisée a beaucoup de succès auprès des jeunes personnes du quartier. Chaque jour, Blériot passe au moins une heure dans son atelier. Son plaisir. Il s'en va ensuite gagner de l'argent. Cela coûte cher, les recherches aéronautiques. Un ouvrier, boulevard Victor Hugo, est payé 2 francs l'heure. On travaille 10 à 11 heures, parfois toute la nuit. À la fin de 1908, Blériot fait ses comptes. 780 000 francs dépensés depuis 1905. On sait, boulevard Victor Hugo, que la situation financière du patron n'est pas brillante. Neuilly coûte de plus en plus cher, et les phares ne suffisent plus à fournir le nerf de la guerre. Un matin, pendant que Blériot est monté voir l'ingénieur Saunier, récemment recruté, Henri, le chauffeur, est entré en grand mystère dans l'atelier. « Vous savez, le patron... »«
Quoi, le patron ?»«
Il vient de vendre l'autre panhard. » Chez les Blériot, le train de vie a diminué. Il est évident que l'on ne pourra plus tenir longtemps. Malgré tout, pour Blériot, une certitude, il faut continuer. Plus tard, il se comparera, à cette époque de sa vie, aux joueurs qui cherchent toujours à se rattraper. Le 23 janvier 1909, il essaie à Issy-les-Moulineaux un nouvel appareil, le BL-11. Blériot dira encore qu'il a mis à construire cet appareil la ferveur des naufragés à lier ensemble les planches de leur radeau. Il est tout petit, le BL-11. 8 mètres de long, les ailes n'ont que 7,20 mètres d'envergure. Mais les essais ont été concluants. Un seul problème, le moteur. On a d'abord essayé le REP de 30 chevaux. Blériot a constaté qu'il n'y a que 2 chances sur 100 pour qu'un moteur de ce genre tourne 1 heure sans avarie. Blériot ne veut rien laisser au hasard. Donc il changera de moteur. C'est Colin qui a préconisé le moteur Anzani. Un moteur de moto de course qui, sûrement, lui, tiendra l'heure. Le moteur Anzani est très rudimentaire. En fonte brute, il a un jeu formidable. Il pisse l'huile, mais il ne casse pas. Anzani exécutera donc pour Blériot un moteur de 25 chevaux. On le monte sur le BL-11. Tout va bien. Le BL-11 vole. Il vole admirablement. Et Blériot sent qu'avec le BL-11, il possède l'appareil auquel il n'a cessé de rêver. Parallèlement, il a sorti un BL-12 plus important. Il vole tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Il gagne des prix, triomphe à des meetings. Il n'est plus l'homme qui tombe toujours. Mais ceux qui l'applaudissent ignorent qu'il se bat contre la ruine. Certes, il a vendu, et bien vendu, un brevet de phare à l'Angleterre. Certes, l'Institut va lui décerner, conjointement avec voisins, son prix Osiris, comme à l'un de ceux qui ont fait le plus progresser l'aviation. 50 000 francs pour chacun d'eux. Mais cela n'a pas suffi à combler le gouffre. Alors, cette obstination sans faille, ce combat sans relâche, ce courage tranquille pour rien, va-t-il falloir abandonner, reléguer le rêve définitivement ? Une solution, une seule, frapper l'opinion par un coup d'audace. Donner à l'aviation cet essor industriel à quoi elle n'est pas encore parvenue. Alors Blériot récoltera enfin le prix de ses sacrifices. Quel exploit frapperait mieux 38 millions de Français que la traversée de la Manche ? Un prix attend le vainqueur de la Manche, celui du Daily Mail, d'une valeur de 25 000 francs. Le règlement est simple mais strict. 1. Le vol doit s'effectuer entre le lever et le coucher du soleil. 2. Aucune partie de l'appareil ne doit toucher la mer pendant la traversée. 3. Le voile doit être exécuté par un appareil qui n'est pas sustenté par un gaz plus léger que l'air. 4. Les concurrents doivent fournir la preuve des points de départ et d'atterrissage par des témoignages signés. Au printemps de 1909, Blériot est décidé. Donc, il faut passer aussitôt à l'action. Il n'y a pas de temps à perdre. Blériot sait qu'il n'est pas le seul à vouloir tenter la course à la Manche. Déjà, on parle de Latham, du comte de Lambert et d'autres. Pour cette tentative de la dernière chance, il faut de l'argent, encore de l'argent. Cercle vicieux. En juillet, Blériot participe à plusieurs meetings, tente de gagner les prix. Le 13 juillet, il vole d'Étampes à Orléans, 41 km. Mais le lendemain, l'avion revient à Neuilly, ayant subi une pluie torrentielle. Le désastre est complet. Le fuselage, les ailes, toujours du papier verni, tout est imbibé d'eau. La colle à longue traînée jaunâtre coule sur l'entoilage. Pour que cela sèche, il faudrait désentoiler. Désentoiler, réentoiler, avec les imprévus, 3 semaines au moins de travail. Il n'en est pas question. Et la Manche? Ce jour-là, et les 3 jours suivants, Grandseigne se contentera donc de tendre les 4 cordes à piano situées à l'intérieur de chaque aile. Puis on recollera le bord avec un ruban de toile tout neuf. On enduira à nouveau la toile extérieurement. Extérieurement, m'a dit Robert Grandseigne, les ailes donnaient un aspect très satisfaisant, mais l'intérieur était douteux. C'est sur cet appareil, c'est appuyé sur ces ailes douteuses, que Blériot, quelques jours plus tard, va entreprendre le vol le plus téméraire de l'histoire de l'aviation. Le 18 juillet, Blériot participe à un meeting à Douai. Un aviateur, en 1909, est un peu comme de nos jours une vedette de cinéma. Il lui faut soigner sa publicité, ne pas se faire oublier. Pour cela, voler le plus possible. Et puis, la présence à un meeting, cela est payé cher par les organisateurs. À Douai, Blériot décolle sur son biplace à moteur ENV. Il vole avec un passager, Julien Mamet. L'appareil s'est élevé sous les applaudissements du public. Le Nord est fier de Blériot. N'est-il pas de Cambrai? Le moteur tourne régulièrement. Tout va bien. Trop vite dit. Le manchon d'amiante qui recouvre le tuyau d'échappement est arraché, emporté par le vent. La cheville du pilote est en contact direct avec le tuyau. Au bout d'une demi-heure, le soulier est percé. Dans une fumée nauséabonde, les chairs commencent à rôtir. 42 minutes. L'appareil se pose. Mamet aide Blériot à descendre. Il est profondément brûlé. Dans le train qui le ramène à Paris, il allonge tant bien que mal sa jambe bandée. Sur ses genoux, un numéro du Matin avec ce titre « Hubert Latham est arrivé à Sangatte ». Latham, probablement l'aviateur le plus populaire du moment. La France de 1909 raffole de sa silhouette dégingandée, de son élégance, de son sourire toujours ironique, de son impertinence. C'est lui qu'interrogeait un jour le président Falière. « Et vous, mon garçon, que faites-vous à part l'aviation ?» Il a répondu de son ton cinglant « Homme du monde, monsieur le président !» À 800, le comte de Lambert attend près de son biplan Wright l'instant de s'envoler vers l'Angleterre. Latham, lui, a choisi Sangatte et l'Antoinette. Avec l'ingénieur Levasseur, qui promène sa barbe rousse et son impatience dans le hall et les escaliers cirés de l'hôtel de la plage, il se ronge les ongles. Si cet horizon pouvait se dégager. Le lundi 19 juillet, pas un nuage. On sort l'Antoinette de son appentis bâché, élevé contre le mur d'une petite usine. Un matelot grimpe sur le toit du zinc. Il hisse un signal pour alerter le torpilleur Harpon qui doit convoyer l'aéroplane. À 6h45, on lance le moteur de l'Antoinette. Quand Latham pique vers le large, une immense acclamation l'accompagne. Plus d'un millier de curieux, d'enthousiastes plutôt, ont assisté à son départ. À 7h04, le point noir qu'est l'avion de Latham disparaît définitivement. 2 navires de guerre le suivent, le Harpon et le Calaisien. 8h, le Daily Mail a installé un appareil de télégraphe sans fil entre Douvres et Sangatte. Une dépêche. Déception, on n'a rien vu à Douvres. 8h45. Un représentant de la Chambre de commerce de Calais accourt. Il vient de recevoir un message par pigeon voyageur. Latham est tombé en mer. C'est le torpilleur Harpon qu'il a aperçu au milieu du détroit, à 15 kilomètres des côtes anglaises, tranquillement assis sur les ailes de son avion qui s'enfonçait. Les pieds dans l'eau, il fumait une cigarette. Boulevard Maillot, à Paris, un télégramme a annoncé à Blériot l'envol de Latham. Allongé sur une chaise longue, il soigne la brûlure de sa jambe. Le médecin a dit « repos complet, pas d'imprudence ». « Latham est parti, il doit réussir », affirme Blériot. L'Antoinette est une bonne machine. Peut-être meilleure que le BL-11, dont son constructeur doute lui-même quelquefois. N'a-t-il pas failli adopter le Guppy au moteur plus puissant ? Alice entre en courant. « Latham, eh bien quoi ? Latham a échoué !» Puisque Latham est sain et sauf, il est humain que Blériot se réjouisse. Tout pâle, les yeux brillants de fièvre, il crie à sa femme « Je pars !» Bien sûr, il y a sa jambe. Tant pis, elle ira mieux dans quelques jours. L'air marin hâtera la cicatrisation. Alice soupire. Louis n'en fait jamais qu'à sa tête. Il y a des années qu'elle le sait. Le timbre du téléphone. Alice décroche, passe le récepteur à son mari. « Cher ami, vous l'avez. »« Quoi donc ? La croix, voyons. » C'est de bon augure. Le 19 juillet, Blériot signe la lettre au Daily Mail par laquelle il se porte candidat au prix pour la Manche. Le BL-11 a déjà été expédié sur un wagon plateforme avec Colin et Mamet. Le 21 juillet, à 12h45, d'un compartiment de première classe, descend à Calais une jolie femme souriante sous la voilette. Elle aide un monsieur vêtu de gris à mettre pied sur le quai. Le monsieur paraît souffrir. Sa jambe est bandée. Il est en pantoufles et ne se déplace qu'appuyé sur des béquilles. Louis Blériot et son épouse viennent rejoindre le BL-11. Une voiture les attend. Celle d'Alfred Leblanc, ami de la famille. Tous les trois partent pour l'hôtel Terminus. À peine arrivé, Blériot doit s'allonger. Dans son visage creusé, livide, la moustache et les épais sourcils paraissent plus noirs encore. De son ton toujours tranchant, il explique à Leblanc « Douleur intolérable !» Dehors, le vent souffle, la pluie fouette les vitres. Jamais vu de mois de juillet comme ça. Même s'il faisait beau, pourrait-il voler ? Sa jambe. Et il y a l'autre, Latham, qui est revenu à Sangat. Son Antoinette réparée, il est déjà prêt à renouveler sa tentative. À 15h, Leblanc emmène Blériot à la recherche d'un abri pour le monoplan et d'un endroit pour décoller. On prend la route de 800. Voici les baraques à 3 kilomètres de Calais. Quelques maisons devant la mer, un petit hôtel pour pensionnaires au budget étroit, l'hôtel des Dunes, une ferme, la ferme Grignon. Il y a là un terrain suffisant pour pouvoir décoller, un grand hangar. Aussitôt Blériot tranche, c'est ici. Jusqu'aux baraques, sur une charrette, on achemine les ailes pliées dans des caisses. Le monoplan lui-même est traîné par un cheval de trait. Quel symbole ! On dresse une tente adossée au mur nord du hangar. Colin et Mamet vont commencer tout de suite le montage. 23 juillet, Blériot a passé une mauvaise nuit. Dès qu'il ouvre l'œil, sa colère éclate. Pourquoi ne l'a-t-on pas éveillé à l'aube ? On lui montre, au-delà des vitres, la pluie qui tombe en rafale. Latham, lui, homme du monde jusqu'au bout, vient l'après-midi saluer Blériot. Un peu plus tard, pour ne pas demeurer en reste, Blériot lui rend à Sangat sa visite. Le soir, à 20h, deux journalistes, Charles Fontaine et Robert Guérin, du matin, se font annoncer chez Blériot. Fontaine offre de partir pour Douvres. Si le temps devient meilleur, il enverra une carte postale. Ironie de Blériot, le temps que la carte postale arrive, il espère bien avoir pris l'air. Le 23, l'Italien Anzani, le bouillant constructeur du moteur, moteur que Blériot n'a pu encore payer, arrive au baraque. Une vraie charge de dynamite, c'est Anzani, qui emplit de ses vociférations éclatantes la cour de la ferme Grignon, les couloirs de l'hôtel des Dunes et invective le ciel, car le temps demeure bouché implacablement. Comme promis, le journaliste Fontaine a pris le bateau pour Douvres et là s'est mis en quête d'un terrain où Blériot puisse atterrir. Il s'est aperçu que les falaises étaient trop hautes la plage trop encombrée. Mais du côté du château, de l'autre côté de la ville, il a découvert une anfractuosité de la côte en forme de cuvette et un terrain de golf. Pas de doute, l'endroit idéal. Aussitôt, Fontaine achète des cartes postales où se voit distinctement le terrain convoité ainsi qu'un plan du port de Douvres. Il remet le tout à un contrôleur de bateau qui part pour la France avec une enveloppe sur laquelle il a écrit à remettre à M. Blériot à son réveil. Le 24, le temps est toujours exécrable. Incapable de rester à broyer du noir dans sa chambre de Calais, en dépit de sa plaie qui suppure et l'empêche de fermer l'œil, Blériot se fait chaque jour transporter aux baraques. En pantoufles, appuyé sur des béquilles, il tourne autour du BL-11. Au camp, l'angoisse pèse sur tous les compagnons du patron. 25 juillet, 2h10 du matin. À l'hôtel Terminus, Alfred Leblanc ouvre un œil. On s'est couché à minuit. Pourquoi s'éveille-t-il si tôt? Alors seulement, Alfred Leblanc comprend. Dehors, il n'y a plus aucun bruit. La tempête s'est tue. C'est le calme qui l'a éveillé. Il se lève, court ouvrir la fenêtre. Ce qui l'enveloppe, c'est l'air humide. Rien d'autre. Il n'a pas rêvé, plus un souffle de vent. Il s'habille, décide de réveiller Blériot. À la même heure, à l'hôtel des Dunes, au baraque, Anzani s'est réveillé lui aussi. Pour la même raison. Il a ouvert sa fenêtre. Pas un nuage, pas de vent. Anzani hurle « Le padrone ! Il partira ce matin !» Il arrache à demi la porte de sa chambre, se rue dans l'escalier, tire quelques coups de revolver pour se calmer les nerfs. Mamet et Colin accourent. « La macchina ! » hurle Anzani. « Préparez la macchina !» Il a sauté dans son automobile avec Leblanc, démarré en trompe. À toute allure, il roule vers l'hôtel Terminus. La voiture stoppée, Anzani pousse d'effroyables clameurs. « Blériot, hé, Blériot, il tempo, il est bon !» Il manque renverser le gardien de nuit, grimpe 4 à 4 chez Blériot. Tout l'hôtel est réveillé par le typhon Anzani. Les portes s'entr'ouvrent, les fenêtres battent. Anzani pousse la porte de Blériot, qui de son lit grogne. « Jour, il vient de passer une très mauvaise nuit. » Il se soulève sur ses oreillers, grimace de douleur, souffle à Anzani qui trépigne, et à Leblanc, « Je crois, pourrait pas partir aujourd'hui. » Alice renchérit. « Regardez-le, monsieur Anzani. Ce serait de la folie. Demain, peut-être. » Un hurlement d'Anzani fait trembler les vitres de tout l'hôtel. « Domani !» Il est heureux qu'Alice ignore les langues étrangères. La vociférante bordée d'injures qui jaillit dans la bouche d'Anzani ne l'atteint pas, tout au moins directement. Pour finir, l'argument suprême. « Mon motor ! Payez-moi mon motor !» Blériot hausse les épaules. Anzani sait bien qu'il n'a pas le premier sou pour le payer. Allons, il va falloir voler. Au moins, essayez. À grand-peine, il sort de son lit, s'habille. Anzani a pris les devants. Il est parti préparer son moteur. Quelques instants plus tard, Blériot roule vers son camp en compagnie de Leblanc. En route, les deux hommes n'échangent pas une parole. Sur place, tout est prêt. Le BL-11 n'attend plus que son maître. Tout le village éveillé forme cercle autour de l'appareil. Il est 4 heures. Le ciel est pur, il n'y a ni vent ni brume, pas encore de soleil. Méticuleusement, amoureusement, Anzani inspecte une dernière fois les rouages du moteur. Mamet attache au fuselage un gros ballonnet d'air qui doit soutenir l'appareil sur l'eau en cas de chute. Colin, qui précédemment a monté sur le longeron une boussole à droite du fuselage, s'assure que les deux accumulateurs peuvent être utilisés indifféremment par Blériot en cas de défaillance de l'un d'eux. Chacun est prévu pour durer 9 heures. L'air vif paraît avoir rasséréné Blériot. Il souffre moins. Alors que la veille encore, il avait fallu le porter vers son appareil, cette fois il y monte seul. Il va effectuer un petit vol d'entraînement. Moteur. Un incident pénible, un petit chien est happé par l'hélice. Blériot n'en décolle pas moins. Il reste une dizaine de minutes dans les airs, agréablement surpris de constater un petit vent frais qui vient de la terre, un vent de marée qui le poussera vers la Manche. Le règlement veut que le départ ne soit donné qu'après le lever du soleil. Après avoir atterri, Blériot attend donc. Nerveusement, il tire de sa cigarette bouffée sur bouffée. Le blanc, au sommet d'une dune, guette l'apparition du disque rouge au-dessus de l'horizon. Mamet attache les béquilles sous le siège de l'avion. « Patron, vous en aurez besoin quand vous serez en Angleterre. » On a fait le plein d'essence, 17 litres. Le moteur a reçu sa pleine dose d'huile de ricin. « N'oubliez pas de pomper toutes les 3 minutes pour maintenir la pression d'huile, » dit Colin. Blériot lance « Si je réussis, 1000 francs pour vous, Mamet. 1000 francs pour vous, Colin. »« Merci, monsieur Blériot, vous réussirez. » Alors, une extraordinaire question de Blériot. « Au fait, où est Douvres ?»« Par là, vous voyez ?» Devant cette machine si fragile, un spectateur s'exclame « Avec ça, traverser la Manche !» Alice, elle, a pris place sur le torpilleur Escopette, chargé d'escorter l'appareil. Elle a revêtu un gros manteau de voyage. Ses poches sont bourrées de papiers que lui a confié son mari. Le navire, commandé par le lieutenant de vaisseau Plogier, a quitté déjà le port de Calais. À petite allure, il s'est porté au large des baraques. Blériot regarde sa montre. 4h30. Le soleil va se lever. Les yeux clairs fixent le large. Le blanc agite violemment un fanion. Le soleil s'est levé. On peut partir. Le représentant du Daily Mail donne son accord. « N'oubliez pas l'huile !» crie Anzani. « Soyez tranquille, c'est ma peau que je risque. Je suis sûr de mon moteur. »« Contact !» ordonne Colin. Une forte traction sur l'hélice. Le moteur part. Les mécaniciens, agrippés aux ailes, aux empennages, retiennent l'appareil avec des gestes de dément, les cheveux fouettés par le vent de l'hélice. Nul n'avait encore eu l'idée simple de placer les cales devant les roues. « Lâchez tout !» Blériot a levé le bras. L'appareil saute sur ses roues de vélo renforcées. Il se soulève, pique droit devant lui. Blériot franchit la dune, d'où le blanc lui crie des souhaits qu'il entend mal. Il est 4h41. À 4h05, on a réveillé à Douvres les journalistes. Tous sont partis du même côté, vers les falaises. Charles Fontaine et son photographe Marmier, eux, ont sauté en voiture et se sont dirigés vers le point opposé. Fontaine a emporté avec lui un grand drapeau tricolore. Sur la Scopette, Alice Blériot suit son mari à la jumelle. L'angoisse la fait trembler. Le bateau force sa vapeur, mais il ne peut suivre. Bientôt, le BL-11 n'est plus qu'un petit point à l'horizon, qui disparaît. Au livre de bord, cette inscription laconique, perdue de vue à 4h58. Devant Blériot, le large. L'eau et le ciel. C'est la solitude immense, sans le moindre point de repère. Pendant les 10 premières minutes, Blériot se dirige perpendiculairement à la côte. Puis il immobilise ses 2 pieds pour ne pas bouger le gouvernail de direction. « J'avais peur de dériver, » expliquera-t-il naïvement. 10 nouvelles minutes. Un isolement qu'il dira sinistre. Enfin, à l'horizon, une ligne grise. Son cœur bat plus vite. Raisonnablement, la victoire peut lui paraître proche. Il vole environ à 60 à l'heure. Où est Douvres ? Au vrai, il a dérivé de 10 kilomètres vers la droite. Au lieu de se trouver face à Douvres, il est devant Sainte-Marguerite. Des falaises à pic qu'il ne parvient pas à escalader. À chaque tentative, un remous le rabat de 20 mètres. Le sol britannique se défend. Sa provision d'essence s'épuise. Va-t-il périr à un doigt de la victoire ? Il aperçoit des petits bateaux. Il a l'idée de voler dans le sens de leur route, se disant qu'ils rentrent probablement à Douvres. Il longe la côte du nord au sud. Dieu soit loué. Les falaises diminuent de hauteur. Il passe. Le vent s'est levé et souffle en rafale. Le BL-11 tangue furieusement. Où atterrir ? Tout à coup, il aperçoit un drapeau qu'on agite éperdument. Un drapeau tricolore. Il se souvient. Le journaliste Charles Fontaine. Depuis plusieurs minutes, Fontaine secoue son drapeau. Il pleure de joie. Il hurle « Vive la France !» Blériot glisse vers la terre. À l'atterrissage, une roue se brise, une pale éclate. L'appareil s'immobilise. Il est 5h12. La Manche est vaincue. Des soldats anglais, désœuvrés, se sont approchés. Simplement, Blériot leur dit « Passez-moi mes béquilles. » Puis c'est un douanier extrêmement sérieux qu'avez-vous à déclarer ? Ma joie. Imperturbable, le douanier dressera un certificat attestant que M. Louis Blériot, conducteur d'un navire appelé monoplan, n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il peut continuer son voyage. Charles Fontaine est allé chercher une voiture. Blériot y monte, roule vers Douvres. La nouvelle l'y a précédé. Une foule à peine éveillée mais délirante emplit les rues. À la mairie, on lui tend un télégramme. « Bien sincères félicitations, espère vous suivre. » C'est signé Latham. À 5h30, l'escopette a fait son entrée dans le port. Une vedette britannique accoste le torpilleur. Un officier monte à bord, salue Alice, dont les lèvres tremblent. « Je vous présente mes félicitations, madame. » Alors, elle pleure. Par le télégraphe, la nouvelle court le monde. Les journaux l'annoncent sur 8 colonnes. À l'atelier du boulevard Victor Hugo, à Neuilly, l'équipe attendait, nerveuse, anxieuse. Un petit télégraphiste a sonné. On s'est rué sur l'enveloppe bleue. Perret l'a ouverte. « Il a réussi !»« Hurrah !» hurle le petit Louis. Les casquettes volent en l'air. Les mécanos vocifèrent en improvisant une danse de papou. Au premier instant de calme, Grandsaigne intervient. « Faut le féliciter !» Perret, sérieux, suggère « On offrira des fleurs à Madame Blériot. » Colin et Mamet, à 7h, voguent vers Douvres sur un vieux bateau à roues, le Pas-de-Calais. Sur la jetée, un homme est là, vêtu de toile bleue qui lève les bras au ciel. « Blériot !»« Il rayonnait littéralement, » dira Colin. « C'est la seule fois que je l'ai vu extérioriser des sentiments intimes et humains. » Enfin, nous avions donc un patron qui riait. À peine débarqués, les deux mécaniciens courent vers Blériot. Éperdu, il les serre dans ses bras. Il nous embrassa de façon déréglée et tumultueuse, l'un après l'autre, Mamet et moi. Il émettait une fougue et une sincérité que je n'avais jamais éprouvées ni soupçonnées. Pendant quelques instants, nous fûmes bouleversés et nous communiâmes dans une vibrante étreinte. Trinité très émue et idéalement satisfaite. Le soir même, Blériot partira pour Londres. Londres où les journaux titrent « L'Angleterre n'est plus une île ». Londres où le romancier H.G. Wells, interviewé, vitupère cette race d'anglais retardataires qui consacrent leur loisir au cricket quand les jeunes français volent à la conquête de l'air. Londres qui acclame Blériot, comme jamais peut-être elle n'acclama un étranger. Londres où l'aviateur reçoit les 25 000 francs du Daily Mail et une coupe en argent ciselée. Mais rien ne peut être comparé à l'ovation de Paris. La capitale, tout entière, s'est portée à la gare du Nord une marée de canotiers, un climat de victoire nationale. Le voilà! Il s'avance très pâle, appuyé sur ses béquilles, entre une Alice rayonnante et un Charles Fontaine qui brandit le drapeau de Douvres dans ses mains crispées. Vers le ciel monte un cri gigantesque. Happé, arraché du sol, le héros est porté en triomphe jusque sur les grands boulevards. Le soir, épuisé, heureux, Blériot trouvera boulevard Maillot, le salon plein d'hommes vêtus de noir, le sourire aux dents, mais le front sérieux, des acheteurs. Les frères Borel, revendeurs d'automobiles, commandent à eux seuls 6 machines. Puis un officiel, « Monsieur Blériot, j'ai voulu vous annoncer ce soir la bonne nouvelle. L'État passe commande de 100 appareils type 11. » L'industrie aéronautique est née. Le jour de la traversée de la Manche, l'épopée des cages à poules s'est achevée. 18 ans plus tard, au Bourget, le Spirit of St. Louis déposera sur le sol français le premier homme ayant traversé l'Atlantique. Le maréchal Foch demandera au jeune Lindbergh s'il est un Français qu'il désire particulièrement rencontrer. Et Lindbergh répondra simplement « Louis Blériot ». Fin de la troisième partie. D'Alain Decaux raconte, tome 4, d'Alain Decaux.